travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Caniche, mâle, femelle, moyens et nains, chaucho, laïki. Bichon à poils frisés ou maltais, loulou, pincher, dalmatien, samoyède, carlin, épagnol et j'en passe. Ils sont là plus de 500, attendant leur prix, avec moins d'impatience d'ailleurs que leurs propriétaires.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Toutes les enquêtes, tous les sondages nous apprennent que la France regroupe aujourd'hui la plus grande population d'animaux de compagnie de l'Union européenne. On en dénombre 63 millions, c'est-à-dire quasiment un par français. Plus d'un foyer sur deux possède un poisson rouge, un chat ou un chien. Non sans sacrifice financier, puisque un chat coûterait 600 euros par an, un chien 800 euros. Dans le même temps, on en voit de moins en moins dans les rues des grandes villes. Comme si le repli sur la sphère privée, inauguré au 19e siècle et peut-être accentué de nos jours par les angoisses sociales contemporaines, y cantonnait de plus en plus les animaux de proximité. Un jour, sûrement, nous parlerons ici des relations de l'homme et du chat. Ce matin, c'est sur le chien que nous allons concentrer notre attention et notre curiosité. Damien Baldin, chargé d'enseignement à l'École des hautes études en sciences sociales, a publié une précieuse histoire des animaux domestiques pendant les deux derniers siècles. Et il achève une thèse consacrée à la police des chiens dans la même durée. D'un côté, les chiens choyés, dressés, protégés. De l'autre, les chiens redoutés, pourchassés, pendus ou gazés. La compassion n'excluant nullement la violence. Voilà bien une ambivalence impressionnante qui, par-delà la fausse simplicité de ce sujet méconnu, peut renseigner sur les équilibres d'une société spécifique, en temps de paix bien sûr, mais aussi, comme nous allons le voir, en période de guerre. Les désirs, les passions, les peurs, les goûts et les dégoûts des hommes et des femmes s'expriment souvent à travers les comportements envers les chiens. J'ai choisi de commencer par la tendresse, sur fond de solitude, une tendresse de compensation, en écoutant la grande Damia. Bonjour, mon chien.
Par ces longues soirées d'hiver, connaissez-vous l'âpre détresse de rentrer seul au nid désert, d'où l'on attend nulle tendresse? Voici ma maison, voici la porte, par où l'infidèle s'est enfui. Je n'ai plus d'amour, mais qu'importe, si tu me restes mon ami. Bonjour mon chien, je n'ai plus que toi sur la terre, mais tes beaux yeux pleins de mystère me comprennent si bien. Bonjour mon chien, tu me fais fête, me cajole, ton amitié n'est pas frivole. Quand tu lèches mes mains, bonjour mon chien. Je devrais t'aimer plus que l'autre qui prit mon cœur pour un joujou. Quant au bonheur qui fut le nôtre, il est parti je ne sais où. Bonjour mon chien. Et mon ami, ma richesse, viens donc chercher une caresse, Bonjour, mon chien. Accablé par tant de douleurs, j'allais sombrer dans la démence, car il avait pris tout mon cœur, me payant par l'indifférence. Je voulais partir, briser le charme, je ne serais plus revenu, mais semblant dire, sèche tes larmes, mon bon ami m'a retenu. Bonjour mon chien, je n'ai plus que toi sur la terre, mais tes beaux yeux pleins de mystère me comprennent si bien. Bonjour mon chien, tu me fais fête, me cajole, ton amitié n'est pas frivole. Quand tu lèches mes mains, bonjour mon chien. Je devrais t'aimer plus que l'autre qui prit mon cœur pour un joujou. Quant au bonheur qui fut le nôtre, il est parti je ne sais où. Ami, ma richesse, viens donc chercher une caresse. Bonjour, mon chien.
Damien Beldin, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre « Bonjour, mon chien », une chanson de Hagel et Carrara, interprétée par Damia en 1944, à la fin de la guerre. Je n'ai plus d'amour, mais qu'importe si tu me restes, mon ami. C'est d'abord l'affirmation d'une fidélité compensatoire. La valeur de la fidélité, depuis longtemps, est celle peut-être qui est le plus attachée, en tout cas dans l'atmosphère pré-romantique ou romantique, à l'image du chien de compagnie.
Oui, ce n'a pas toujours été le cas, justement. À l'époque moderne, le chien véhicule des valeurs liées plutôt à la vulgarité, à la subversion. Et c'est justement avec l'émergence du romantisme, avec l'émergence d'une certaine sensibilité, d'une attention à soi, que le chien va devenir le symbole de la fidélité, le symbole de la fidélité par-delà la mort, celui qui donne du sentiment, permet l'expression également de ses sentiments. Et cette chanson est très représentative de l'image d'une femme seule, célibataire, que l'on imagine vivre en ville. Et au XIXe siècle, le repli des femmes sur la sphère privée, hein, beaucoup plus qu'au XVIIIe siècle et qu'au siècle précédent, eh bien, va favoriser l'émergence de l'animal de compagnie. Et le mot britannique pour désigner animal de compagnie, qui est le mot pet, signifie aussi caresse. Et on voit combien dans la chanson, le rapport sensuel avec le chien est extrêmement important.
Avec contraste, évidemment, en face de l'infidélité de l'homme qui a traité la femme comme un joujou. Cette valeur de fidélité, elle est assez romantique, effectivement, peut-être chrétienne et bourgeoise. On aperçoit déjà l'origine de l'idée dans l'encyclopédie à la fin du XVIIIe siècle, puisque à l'article « chien », on lit « Les chiens sont peut-être de tous les animaux ceux qui ont le plus d'instinct, qui s'attachent le plus à l'homme et qui se prêtent avec la plus grande docilité à tout ce qu'on exige d'eux. Celle que nous admirons le plus parmi ces qualités, parce que notre amour-propre en est le plus flatté, c'est la fidélité avec laquelle un chien reste attaché à son maître. » Contraste avec le chat, d'ailleurs.
Oui, dans le bestiaire des sociétés occidentales, il y a des couples antithétiques. Il y a le loup et le chien, il y a le chien et le chat. Aujourd'hui, le chat est aussi apprécié, si ce n'est plus encore. Je crois que d'ailleurs que le nombre de chats a dépassé le nombre de chiens aujourd'hui, en 2014, en France.
Légèrement.
Légèrement, mais c'est important surtout quand on regarde et quand on se replonge au 19e siècle, où là, au contraire, eh bien, nous avons une société extrêmement cynophile et qui marginalise le chat. Et d'ailleurs, quand vous êtes un historien, que vous travaillez dans les archives, dans les sources, même dans les sources littéraires, eh bien, il y a une grande dissymétrie entre l'abondance d'écrits, de témoignages, d'archives à propos des chiens, et au contraire, des sources très lacunaires, presque absentes, à propos des chats. Parce que le chat représente justement des valeurs à l'opposé de celle que véhicule le chien, notamment la fidélité.
L'infidélité pour le chat.
Alors que cette infidélité qui est stigmatisée au 19e siècle devient au contraire une valeur au 20e siècle qui est celle de l'indépendance. On apprécie aujourd'hui l'indépendance du chat. Mais surtout au 19e siècle, on stigmatise le peu d'attention maternelle de la chatte pour ses enfants. Or, avec l'émergence des valeurs liées à la famille, ce défaut qui est pointé par le naturaliste Buffon va perdurer dans la société française au XIXe siècle et explique en grande partie le dédain que l'on peut avoir contre le chat.
Contre le chat. Prospère au XIXe siècle les histoires de chiens fidèles qui se laissent mourir parce qu'ils ont perdu leur maître, ou mieux encore, qui le retrouvent contre vent et marée après avoir été séparés. Et puis il y a cette histoire qui a eu tant de succès, c'est celle du chien de Montargis qui a été porté à la scène par Pixérécourt, un succès qui a duré 20 ans. Il faut que vous nous rappeliez l'histoire du chien de Montargis.
C'est une légende qui a beaucoup de succès au 19e siècle, vous l'avez dit. Pixérécourt en fait une comédie dramatique, il y a des chansons sur ce chien de Montargis.
Ça remonte au règne de Charles V.
Au règne de Charles V, une légende qui dit que le chien de Montargis s'était attaché à son maître, un gentilhomme, et que ce gentilhomme est assassiné par un gentilhomme rival. Personne ne sait comment disparaît le maître du chien de Montargis, et c'est lui qui retrouve le corps de son maître, et surtout c'est lui qui va désigner le coupable, et le roi va décider d'une confrontation entre le chien et l'assassin du maître du chien de Montargis. Et lors de cette ordalie, eh bien, le chien l'emporte contre l'assassin et la justice du roi y voit un signe de Dieu, c'est une ordalie. Et donc le chien réussit à désigner aux yeux du roi et aux yeux de la société féodale ce coupable. Et ça désigne cette fidélité du chien au maître par-delà sa mort, et qui est une histoire en fait extrêmement ancienne, puisque, vous le savez, dans l'Odyssée, un des grands moments, lorsque Ulysse revient à Ithaque, lorsque déguisé en vagabond, il se dirige vers le palais familial, là, juste devant la porte, se tient un très vieux chien, un chien qu'Ulysse avait dressé lorsqu'il était encore jeune.
Qui est le seul à reconnaître Ulysse.
Qui est le seul à reconnaître Ulysse, et Ulysse le reconnaît également, le chien lève les yeux, le regarde et s'effondre. Il a attendu plus de 20 ans avant de mourir, avant le retour de son maître.
Le chien au 19e siècle prend figure d'anti-chat et aussi d'anti-loup. Et là, on est évidemment dans la lignée de la fameuse fable de La Fontaine, où le chien propose au loup tous les avantages de la proximité du maître. Et le loup, c'est sur le point de s'y prêter jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il faudra avoir un collier. Et ça lui est insupportable, il s'en va et court encore.
Au 19e siècle, le chien prend de plus en plus d'importance parallèlement à la disparition du loup. Et il est systématiquement présenté comme un anti-loup. Et cela, on le retrouve une fois encore chez les naturalistes du 18e siècle et notamment de Buffon. Le loup accumule tous les défauts qui sont le miroir des qualités du chien. Le loup attaque la propriété. C'est un voleur. Le chien, lui, protège la propriété. Il est fidèle à la propriété. Le loup n'est pas sociable. Or, ce qui fait la grande qualité également du chien, c'est qu'il est sociable avec les hommes, c'est qu'il va vers les hommes, et qui donc il peut être dressé, il peut être fidèle aux hommes. Et puis, toujours en lien avec la mort, nous avons beaucoup évoqué la mort, et je pense que nous allons continuer à le faire, le loup est régulièrement décrit comme un nécrophage, comme quelqu'un qui peut s'attaquer aux morts, aux cadavres de morts. Or, justement, l'imagerie qui se dégage du chien est au contraire celui qui va veiller sur le maître mort. Combien d'histoires dans le folklore, notamment, où l'on voit les chiens rester fidèles à la tombe de leur maître.
Et lécher avec tendresse leur corps sans vie.
Oui, il y a une vieille légende également qui perdure dans les campagnes françaises au XIXe siècle, comme quoi la bave de chien peut être utilisée pour guérir les blessures.
Ça, c'est quand il est encore temps. Mais après la mort, c'est trop tard, d'après mes observations.
Après, il ne reste plus qu'à pleurer sur la tombe du maître.
France Culture, concordance des temps.
Jean-Noël Jeannet.
Cette proximité du chien comme animal de compagnie concerne d'ailleurs surtout les femmes dans cette période du 19e siècle. Et le meilleur écrivain qui puisse, un peu après, exprimer cela, c'est Colette, qui était si magnifiquement efficace pour exprimer les choses de la nature, les plantes et les animaux. Écoutez cette interview du 21 novembre 1948, souvenir de son chien qui s'appelait Souci.
Elle avait une mémoire subtile, comme la plupart des chiens à gros cerveau rond, les bulldogs, les bull terriers et les petits terriers bravançants et les boxeurs. La boxeur de mon frère aîné, elle savait plusieurs chansons. Et ma bulldog Souci, elle savait un nombre extravagant de mots. Elle les apprenait si rapidement que je m'offrais l'amusement de lui donner des défauts de prononciation. Elle aimait les fruits avec une préférence marquée pour la framboise et le raisin bien mûr, que je désignais pour elle seule, bien entendu, quand nous étions seuls, sous les noms de framboise et de raisin, avec lâche fortement aspiré, je vous en prie. Quelquefois, j'oubliais les rites et je lui demandais « Vous voulez une framboise? Vous voulez un raisin ?» Elle me regardait d'un air buté et ne me répondait rien. Alors je rectifiais, naturellement. « Vous voulez une petite framboise ou bien un petit raisin ?» Sur quoi Souci s'élançait, soulagé, avec des marques de joie et d'acquiescement, jusqu'au jour où, ayant découvert que non seulement la vigne, mais la framboiserie fructifiait à hauteur de bulldog, elle se passa de mon aide et des vocables corrompus pour prendre vers 7 heures du matin son petit déjeuner de framboise et de raisin. Je l'avais acheté à l'exposition canine des Tuileries. Premier prix qu'elle était, des bulldogs français, catégorie des moins de 7 kilos. Je l'avais payé 9000 francs. Et je trouvais ça un peu vif, mais son frère était parti pour l'Amérique, enlevé au poids de l'or. L'acquisition passe en mes moyens, j'en fus quitte pour me priver d'un costume tailleur neuf et d'une robe d'après-midi, et la garde-robe de Souci s'accrut d'un harnachement magnifique en maroquin écarlate. Quand nous sortions ensemble, mon coup de droit râpé et mon feutre, que la comtesse de Noailles appelait mon chapeau de vieux chasseur, je faisais peut-être un peu miteux, mais la chienne retenait les regards. Et en 11 années d'existence commune, nous n'avons pas croisé, Souci et moi, un couple où le bulldog recueillit autant de jalouse admiration.
C'était Colette, Damien Baldin.
Cet extrait est un prolongement de la première chanson de Damien, puisque l'on y voit l'image assez caractéristique de la femme et de son chien, et de l'attention que les femmes portent au XIXe siècle à leur chien. Il y a, dans cette explication de cette image qui est devenue un petit peu une image d'Épinal, à la fois une réalité sociologique, à savoir que les femmes au XIXe siècle, eh bien, ont une vie de travail, ont une vie de célibataire dans les grandes villes, et que donc elles ont aussi ce besoin d'acquérir, de vivre avec une présence animale, et le chien est l'animal idéal pour justement pouvoir accueillir les sentiments et les désirs des femmes. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que le 19e siècle construit l'image d'une femme proche de la nature, ce que Alain Corbin parle notamment de la naturalisation des femmes, et que l'on pense que les femmes sont naturellement plus proches des animaux, plus sensibles au sort des animaux. Et c'est ce qui explique que les témoignages accordent beaucoup d'importance à ces relations entre femmes et chiens.
La peinture aussi, dans la réédition, très belle réédition du livre qui a eu tant de succès de Michel Perrault, Chambre, on voit des peintures, notamment une magnifique peinture de Sarah Bernard avec un lévrier à ses pieds.
La peinture est extrêmement révélatrice de la place profondément intime que le chien peut avoir dans le foyer et notamment la proximité entre le corps des femmes et le corps des chiens. Et vous avez parlé de la peinture, mais nous pourrions également évoquer la littérature.
Nana, parlez-nous de Nana.
De Zola, de son chien qui est constamment blotti contre elle, entre ses jambes, dans ses jupes, dans son lit. Il y a une véritable érotisation, d'ailleurs, des relations entre les chiens et les femmes dans le monde des courtisanes de Zola, ce qui provoque évidemment la jalousie, notamment du comte de Muffat, qui est extrêmement jaloux du petit bijou qui lui concentre toutes les caresses et toutes les câlineries de Nana quand elle le met à distance.
On peut aussi observer que dans la correspondance de Zola avec sa femme Alexandrine, il est beaucoup question de chien. Quand elle est absente, il l'entretient de la santé du chien, il s'appelle Pain. Il est vrai que Zola commençait avec deux ménages et des enfants de l'autre côté avec Jeanne. Du côté d'Alexandrine, ce sont des chiens.
Les premiers psychiatres, d'ailleurs, s'inquiètent et stigmatisent eux aussi, notamment lorsqu'ils décrivent les cas de perversion et de zoophilie. Les psychiatres disent que les femmes sont naturellement plus portées à la zoophilie et notamment à cause de leur proximité avec ces chiens de compagnie. Et donc la psychiatrie, le discours scientifique, lui aussi, eh bien, vient conforter l'image de cette proximité à la fois affective et à la fois sensuelle entre le chien de compagnie et les femmes, quel que soit d'ailleurs le niveau social, l'appartenance sociale des femmes.
Je note que les psychiatres se sont aussi mêlés d'interpréter les relations de Tintin et de Milou, mais ça nous entraînerait probablement un peu loin. Je voudrais en venir, Damien Baldin, je voudrais en venir au rôle des chiens comme protecteurs aussi de la société, collectivement, c'est-à-dire les chiens qui sont en particulier au service de la police. Là, c'est la lutte contre les apaches en particulier. On voit apparaître au cours du 19e siècle ce rôle des chiens qui aujourd'hui, évidemment, perdure de façon tout à fait frappante. Les chiens sont des auxiliaires déjà constamment de la lutte contre les perversions de la société.
Même si nous allons le voir de manière sans doute un petit peu différente. L'emploi des chiens dans la police, essentiellement au tout début du XXe siècle, dans les années 1900, est en fait le prolongement de ce que nous avons déjà évoqué à propos du chien, à savoir qu'il est le protecteur de la propriété, le protecteur de l'équilibre social, celui qui, en tant que chien de berger par exemple, protège le troupeau, protège la civilisation contre le loup et contre le sauvage. Et c'est donc tout naturellement qu'il devient un auxiliaire de la police, de l'ordre, de l'État, contre le sauvage, et notamment contre ce que l'on désigne alors à l'époque, les apaches.
C'est en 1907 qu'apparaît la première unité cynophile à Neuilly-sur-Seine. Le cave canem prend garde aux chiens, du coup devient quelque chose de quasiment universel.
On voit d'ailleurs fleurir dans la presse toute une série de reportages pour montrer combien ces chiens sont extrêmement efficaces contre les apaches. Et pour revenir justement à la situation d'aujourd'hui, les chiens en 1907, vous l'évoquez, sont des chiens dressés à l'attaque contre les apaches, contre les délinquants, contre les voleurs. Et on remarque qu'au cours du XXe siècle, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, l'usage agressif des chiens par la police devient de plus en plus intolérable. Et aujourd'hui, les chiens utilisés par la police sont des chiens notamment de détection qui sont là pour détecter notamment de la drogue. Ils ont un rôle extrêmement doux et pas du tout le rôle agressif, le rôle de chien d'attaque qu'ils avaient pu avoir au XXe siècle.
C'est peut-être aussi parce qu'il y a eu l'apparition des pitbulls dont des individus faisaient usage, en somme, pour pouvoir se défendre avec éventuellement toutes sortes de bavures possibles.
Je crois que l'on peut remonter un petit peu loin et une des explications est notamment celle de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? En 1948, lors d'une manifestation ouvrière à Marseille, les CRS emploient des chiens. Et cet emploi des chiens contre une manifestation d'ouvriers provoque un tollé dans le monde ouvrier, dans le Parti communiste également, mais pas seulement. En effet, on voit notamment à Paris les rescapés des camps de concentration et des camps d'extermination s'offusquer de l'emploi par la police française de chiens d'attaque. Pourquoi ? Parce que cela ramène ces rescapés au souvenir des chiens utilisés par les officiers SS dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination. Et c'est d'ailleurs ce rapprochement que font les contemporains de l'année 1948 entre les chiens SS et les chiens des CRS, qui va être notamment à l'origine dans l'imaginaire communiste des CRS, de l'assimilation et du fameux slogan CRS-SS.
D'ailleurs, les caricatures de la presse communiste montrent Jules Moch, le célèbre ministre de l'Intérieur, à poigne, dessiné en chien.
Eh bien, cette caricature de Jules Moch en chien s'explique notamment par le fait qu'on soit offusqué que la police, qui est aux ordres de Jules Moch, ait employé des chiens.
Il y a aussi une histoire impressionnante qui est celle de Romain Gary dans son célèbre roman Chien blanc, qui évoque le souvenir d'un chien qu'il avait recueilli et qui était dressé contre les Noirs. Écoutez cette interview de Gary à Interactualité le 3 avril 70.
C'est un jour de pluie à Hollywood. J'étais avec ma femme Jean Seberg qui tournait un film et mon chien jaune avait, Sandy avait disparu. Pendant quelques jours, il est parti en vadrouille et puis il est revenu avec un autre chien, un chien un berger allemand, assez âgé, assez pépère, que nous avons recueilli. C'était une bête très douce et très gentille, très sympathique, qui faisait fête à tous nos invités, sauf brusquement qu'un beau jour, quelques jours après, plus exactement, on s'est aperçu que chaque fois qu'il y avait un noir qui s'approchait de la porte, je dis même pas qu'il entrait à la maison, qui s'approchait de la porte, il lui sautait immédiatement à la gorge. Il se déchaînait, il devenait une furie. C'est une transformation totale de la bête, de l'animal paisible et amical, en une furie déchaînée. Et nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait de ce que, depuis quelque temps, on appelait dans le Sud, et parmi les Noirs, on appelait chien blanc. Chien blanc, en ce sens que c'était un chien dressé pour faire la chasse aux Noirs dans les manifestations et ailleurs. Et je me suis attaché à la fois à la bête et à l'idée de guérir cette bête de quelque chose qui était au fond un racisme malgré elle. C'est-à-dire que sa pauvre cervelle avait été déformée et je me suis appliqué à le guérir en l'amenant à Hollywood, dans un endroit où on fait le dressage de bêtes en général pour le cinéma et la télévision. Et je l'ai confié là-bas à des amis pour qu'ils le rééduquent. On m'a dit que c'était impossible, etc., etc. Mais parmi eux, il y avait un assistant noir du patron, et c'est ce garçon qui a pris en charge Bad Cat, ainsi que je l'avais surnommé, ce chien, pour essayer de le changer. Et il y a eu une lutte absolument acharnée entre ce garçon noir et le chien, et le noir, ce garçon noir, a gagné, d'une manière assez tragique, en ce sens qu'il a fini par entraîner Chien Blanc dans son camp. Chien Blanc était devenu Chien Noir.
Et c'est tout à votre gorge qu'il a fini par sauter.
Qui a fini par sauter un jour.
On voit là à nouveau le chien au service d'une force brutale, et là, en l'occurrence, d'une perversité sociale.
On voit ici l'autre face du chien, qui peut être aussi un véritable loup, et c'est justement cette ambivalence du chien qui peut passer du domestique, du dressé, au sauvage et à la violence. Et c'est aussi le chien de la domination sociale. Cela me fait penser notamment aux conquistadors qui utilisaient des chiens d'attaque extrêmement brutaux
déjà,
et qui étaient un des symboles de la violence et de la domination des Européens partis alors à la conquête de l'Amérique. Cette double face du chien est notamment illustrée par la peur de la rage qui perdure très longtemps, hein, jusqu'à la découverte du vaccin antirabique, et qui fait que, même si l'on a parlé de l'attachement croissant pour les chiens, il n'empêche que la peur subsiste, hein, jusqu'à la fin du XIXe siècle, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, puisque l'on sait qu'un chien peut à tout moment s'attaquer à une personne, et l'on sait qu'une des causes principales d'accidents domestiques, encore aujourd'hui, sont les attaques de chiens.
En dehors même des pitbulls.
En dehors même des pitbulls, la question de l'agressivité des chiens n'est pas forcément liée à l'espèce. Elle est surtout liée à la manière dont les hommes les dressent et les domestiquent.
Alors je voudrais que nous en venions maintenant, Damien Baldin, au rôle des chiens dans la Grande Guerre. Parce que l'on retrouve là, évidemment, une violence inédite et en même temps perdure une familiarité spécifique avec les poilus. Il y a deux images à quoi l'on peut songer. Une photographie de Raymond Poincaré, président de la République, en train de décorer un chien. Et d'autre part, ce célèbre monument aux morts. Les monuments aux morts ont beaucoup à nous dire par leur thématique. Le monument aux morts de Sainte-Ménéhoulde, dans la Marne, où on voit un poilu avec à côté un chien magnifique qui est dans sa familiarité et qui visiblement lui a rendu des services éminents.
Oui, cet animal du monument dont vous parlez est un animal qui est en train de guetter. de surveiller sans doute ce qu'on imagine être le No Man's Land, les lignes allemandes. Et ce n'est pas uniquement un symbole, c'est aussi une réalité, car les chiens ont été nombreux dans les tranchées, françaises comme allemandes d'ailleurs. Ils ont à la fois joué un rôle militaire. Ce sont des chiens de patrouille, des chiens de sentinelle, des chiens qui, notamment dans la nuit, dans le dédale des boyaux et des tranchées, jouaient un rôle important pour se repérer, pour guider les soldats. Et puis, évidemment, dans l'ennui des tranchées, dans la peur et l'angoisse aussi, des tranchées, les chiens ont été de véritables compagnons. Alors, ça pouvait être des chiens errants, notamment tous ces chiens qui ont dû être abandonnés par les populations civiles qui ont dû fuir les combats, mais aussi, et c'est encore plus amusant, des soldats qui, en cachette, de manière illégale, pouvaient ramener lors d'une permission leurs propres chiens ou des chiens qu'ils avaient trouvés à l'arrière des lignes. Et dans les archives, lorsque vous entendez les justifications de ces officiers, de ces soldats qui ramènent des chiens, eh bien, certes, il y a un aspect utilitaire dont nous venons de parler, mais il y a aussi ce besoin de réconfort, de caresse, de sentiment que les chiens apportent aux soldats dans leur détresse, qui est aussi une détresse affective.
On a commencé, du côté des historiens, de s'intéresser aux animaux dans la guerre, les chevaux bien sûr, et les chiens. Il y a un beau livre d'Éric Baratet sur ce sujet.
Oui, Éric Baratet a travaillé sur ce qu'il appelle les bêtes de tranchée, à partir du regard des animaux, toutes les relations que les hommes, que l'armée, que les soldats entretiennent avec les chiens.
Alors cela nous conduit à un autre chapitre de notre réflexion sur les relations entre l'homme et le chien ce matin, Damien Baldin. C'est la question de la maîtrise des races. La maîtrise du chien devient une nécessité sociale. Un certain type de chien paraît comme devant être plus fidèle encore que les autres, plus soumis à la volonté de l'homme. On le voit dans toute la littérature. D'ailleurs, le Pritchard d'Alexandre Dumas ou le chien de Rémy dans « Sans famille » d'Hector Malot, qui a fait pleurer des générations d'enfants sous la Troisième République. La maîtrise du chien devenant une nécessité sociale, l'amélioration de la race, c'est important. Écoutez d'ailleurs cette interview de cet éleveur de chiens qui cherche la race pure. Il s'appelle Monsieur Renard, ce qui ajoute un peu de piquant à cette archive qui date du 20 novembre 1966.
Une visite à l'une des meilleures pépinières d'animaux de compétition, l'élevage de Port-Arthur à Montoire, où Michel Lepron, je pense, nous accueillera par un concert d'aboiement. Vous êtes parmi les chiens, Michel Lepron?
Eh bien oui, je suis parmi les chiens et je vous assure, je suis dans une très belle propriété appartenant à monsieur et madame Renard, qui nous accueillent d'ailleurs fort aimablement. On n'est pas seul, vous pouvez l'entendre d'ailleurs actuellement. Monsieur l'ami, nous sommes entourés de nombreux setters anglais.
Bonjour monsieur Renard.
Bonjour monsieur l'ami.
Ah monsieur Renard, il paraît que vous êtes un très très ancien éleveur.
Ah bien vous savez, oui, j'ai toujours chassé, j'ai toujours élevé des chiens, mais maintenant je me suis mis aux races pures depuis quelques années.
C'est ce que vous préférez, les races pures?
Bien oui, parce que j'ai eu beaucoup de résultats avec des races pures. Dans mon jeune temps, même avec mon père et mon grand-père, on élevait des chiens qui étaient sans pédigré. Mais depuis que je fais la grande race, eh bien, j'ai obtenu des succès, comme le championnat de France et la sélection de la Coupe d'Europe.
Pour moi, la grande origine est valable, aussi bien du côté paternel que du côté femelle. Et si on met un jour de la farine blanche avec de la farine grise, il ressort toujours un peu de farine grise. C'est donc qu'il faut marier, à mon avis, des races pures ensemble pour obtenir un très grand résultat.
Et justement, les résultats, vous les avez obtenus à la suite de nombreuses années de recherche. Vous avez obtenu de vos chiens une pureté, une distinction.
Vous avez raison de dire pureté, car voyez-vous, j'ai élevé des bêtes toute ma vie et je me suis aperçu qu'on ne pouvait avoir des belles bêtes que par la consanguinité. Si vous croisez ensemble, comme dans la nature, des bêtes sans défaut, vous obtenez des bêtes suprêmes, des bêtes du jamais vu.
L'amélioration des races, cela s'enracine en fait, Damien Baldin, dans cet effort du 19e siècle pour améliorer la nature, l'acclimater, société d'acclimatation, l'acclimater à l'homme, dans un climat général où la notion de racialisme est très présente, y compris pour les hommes.
La domestication est un geste de civilisation. Pourquoi ? Parce que la nature est donnée aux hommes pour qu'elle soit fécondée par leur savoir, par leur intelligence, et que donc, au XIXe siècle, la maîtrise du chien est un acte extrêmement valorisant et valorisé. On parle ici de l'amélioration des races, on pourrait également évoquer le dressage, et je crois que ce sont les deux gestes qui sont symboliques de la maîtrise et du souhait d'améliorer les chiens par les hommes. Le dressage qui permet d'asseoir la domination de l'homme sur le chien et qui, paradoxalement, va aussi faire permettre d'émerger la figure du chien comme être psychologique, comme être sensible. Il ne faut pas croire que les méthodes de dressage au XIXe siècle sont uniquement basées sur une vision mécaniste des chiens, mais au contraire sur une appréhension du chien comme être psychologique qu'il faut savoir comprendre, pour lequel il faut savoir être attentif.
D'ailleurs, certains manuels de l'époque font implicitement ou même explicitement un parallèle entre le dressage des chiens et le dressage des conscrits dans l'armée.
Bien sûr, et surtout le dressage des enfants. Il y a comme ça une circulation du dressage à propos des enfants, à propos des chiens et à propos des soldats. Et d'ailleurs, les officiers républicains à la fin du 19e et au début du 20e siècle utilisent le terme de dressage et font eux-mêmes le parallèle entre le dressage des enfants et le dressage des soldats.
La répression fait partie du système d'obéissance, comme dans l'armée, un manuel qui s'appelle « À vos ordres », consacré au dressage des chiens, dit « Si confiant dans sa force, le chien avait une fois l'air de vous menacer, muselez-le aussitôt ou attachez-le solidement et donnez-lui une bonne raclée, puis laissez-le à la chaîne le temps nécessaire pour réfléchir aux conséquences de sa révolte. Et ensuite, la douceur reprendra le dessus. » Dans les romans de la comtesse de Ségur, on voit une manière de traiter les enfants qui n'est pas tellement différente.
Non, ce jeu entre la douceur et puis la sévérité, la douceur qui est également présente justement dans les manuels des officiers, toujours à la même période. Et cette douceur est vraiment un sentiment qui prend toute sa valeur, surtout dans la seconde moitié du 19e siècle, et qui va devenir peu à peu le comportement que les hommes doivent adopter avec le chien. Et la sévérité, le fait de devoir dresser de manière extrêmement brutale le chien, va peu à peu s'effacer pour, au contraire, un dressage qui s'appuie presque uniquement sur la douceur et sur les caresses, faisant justement du chien un être véritablement sensible.
D'ailleurs, c'est la période aussi, ce 19e siècle, au mi-temps du 19e siècle, la période où commence de se développer l'idée que l'homme est comptable d'une certaine protection des animaux, la société protectrice des animaux. Et puis, il y a cette fameuse loi Gramont qui apparaît en 1850. Certains ont fait remarquer que c'est 2 ans après la suppression de l'esclavage que cette loi est votée, à la période intermédiaire entre la révolution de 48 et le début du Second Empire, et que Victor Schœlcher, le grand homme de la fin de l'esclavage, a soutenu chaleureusement Gramont. Rappelez-nous ce qu'était cette loi Gramont.
Cette loi Gramont, c'est la première loi qui fait des mauvais traitements envers les animaux une infraction dans le code pénal. Par cette loi, constituée d'un seul article, sont punis d'une contravention et d'une peine de prison en cas de récidive les mauvais traitements exercés sur des animaux domestiques dans l'espace public. Cette loi a une double généalogie. Elle est à la fois votée par la droite bonapartiste, le comte de Gramont appartient à ce courant politique, et en même temps, elle est soutenue par la gauche républicaine, vous avez cité le cas de Victor Schœlcher. Et cette volonté de protéger les animaux, elle n'est pas tant pensée en 1850 comme une protection des animaux pour eux-mêmes, des animaux parce que ce sont des êtres sensibles, elle est au contraire pensée comme une pédagogie de la population et notamment du peuple. Lutter contre les mauvais traitements faits aux animaux, c'est pour le gouvernement, pour ces hommes politiques qui votent cette loi, c'est lutter contre la violence que l'on pense inhérente à la population, contre cette violence un petit peu débridée, des charretiers notamment, ou de la ville populace. Elle est donc pensée, cette protection, comme une protection avant tout humanitaire, protéger les hommes de leur propre violence.
C'est un ressort qui est toujours au travail aujourd'hui, puisqu'on s'est indigné tout récemment du traitement affreux qu'on a fait subir à un chat.
Alors, c'est en février de cette année, vous le savez, un jeune homme exerce des mauvais traitements contre un petit chat. Nous sommes à Marseille. Et ces actes de cruauté sont filmés et diffusés sur le réseau du web. Et cela provoque un émoi considérable. Les médias s'emparent de cette affaire. Et l'affaire provoque d'autant plus d'émotion, d'intérêt, que le jeune homme est condamné à 1 an de prison ferme. Ce qui provoque chez certains l'incrédulité. Qui sait aujourd'hui en France que l'on peut faire de la prison ferme pour acte de cruauté envers les animaux ? Car si en 1850, ces mauvais traitements relevaient de la contravention, aujourd'hui, et depuis le début des années 60, les actes de cruauté envers les animaux relèvent du délit et donc sont passibles de, au maximum, 2 ans de prison ferme.
Le comte de Gramont doit se réjouir dans sa tombe.
Il doit s'en réjouir et... Là où vous avez raison, c'est que l'émoi qu'a provoqué cette vision de la cruauté exercée sur un chaton relève justement de cette peur de la violence populaire. Et ce n'était pas un hasard si cela a entraîné d'autant plus de passion médiatique que le jeune homme était originaire des quartiers nord de Marseille, qu'il avait une origine maghrébine et que, bien sûr, cela a renvoyé à la peur que représente aujourd'hui cette population des banlieues éloignées du centre-ville. Et le jour même, je suis allé sur la toile, notamment sur des blogs ou des sites de partis d'extrême droite qui se sont évidemment emparés de l'affaire et qui ont désigné l'origine sociale et culturelle de l'auteur des faits comme une des raisons de sa violence envers l'animal en question, qui en plus était un chaton et qui donc représentait à la fois l'enfance et l'innocence.
On ne peut pas mieux confirmer que la manière dont une société traite ses chiens, la diversité de ses comportements est très révélatrice de ce qui constitue son équilibre particulier, avec des continuités en l'occurrence frappantes.
Continuité et puis aussi quand même évolution, mutation, puisque... Aujourd'hui, tous ceux qui militent pour améliorer notamment le sort juridique des animaux, eh bien, ont pour justification le bien-être des animaux. Et si aujourd'hui, le législateur doit mieux protéger les animaux, ce n'est pas tant pour protéger les hommes de leur propre violence que pour protéger les animaux pour eux-mêmes et pour ce qu'ils sont.
France Culture, concordance des temps.
Jean-Noël Jeannet.
Nous avons vu que la société protectrice des animaux s'est épanouie dès le Second Empire. Elle est encore très active. Écoutez ce reportage de 14 mars 1947 dans un refuge de la SPA à Gennevilliers, une émission de Georges Join.
Savez-vous ce qu'est le refuge de la société protectrice des animaux ? Écoutez ce qui s'y passe tous les jours.
Allô ? C'est moi-même, madame, oui ? Bonjour, madame. Ah, non, pas du tout de gros chiens, madame, en ce moment. Il y a... Ah non, 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 tous les chiens du boulevard Berthier viennent ici. Ils sont tous placés automatiquement à Gennevilliers. De rien, madame. Au revoir, madame.
Vous êtes sûr que c'est bien né ?
Vous me permettez, je m'excuse d'intervenir, mais je suis près du directeur de la Société protectrice des animaux qui vient de recevoir un coup de téléphone intéressant. Je crois que j'ai deviné le sens de la conversation.
C'est une dame qui me demande en effet un gros chien, oui, un chien de garde.
Un chien de garde ?
Un chien de garde.
Et vous n'en avez pas pour l'instant ?
Pas du tout pour le moment.
Qu'est-ce que vous avez comme animaux ?
Que des fox, des petits chiens d'appartement.
Des petits chiens d'appartement.
Oui, facilement aussi.
Est-ce qu'on peut vous suivre maintenant quelques derrière
avec,
là-bas
pour avec voir les plaisir, animaux ? Monsieur.
Merci, monsieur. C'est un chien berger, il est magnifique.
Un
ça.
Berger malinois, oui.
Un berger malinois, il est splendide. Depuis quand l'avez-vous, cet animal-là ?
Depuis l'Exode.
Mais on ne vous l'a pas
c'est
pris ?
C'est un chien que j'avais placé, qu'on avait placé plutôt en 39.
Oui.
Un an avant la guerre.
Il mordrait, oui.
Et à l'Exode, probablement, certainement que ses maîtres sont partis, n'ont pas pu l'emmener, comme beaucoup, ils l'ont mis à la rue. Ce chien, nous l'avons retrouvé le 14 au matin devant la porte de Fuge, avec sa médaille.
Il est revenu tout seul ? Mais alors dites-moi, ce chien, qu'est-ce qu'il va ? Il va rester là jusque.
Ah, il finira ses jours ici.
Ah
un
bon
souvenir, parce qu'on l'a pris à la rouverture du refuge qui avait juste fermé 48 heures. Alors j'ai dit, c'est le premier chien qui vient, et ben on va le garder.
Et il est venu tout seul ?
Il était devant la porte.
Mais alors, vous le laissez enfermer toute la journée ?
Ah non, aujourd'hui parce qu'il pleut.
Ah mais ça, il est dehors.
Mais ah bon, il ne mord pas François ? Il ne mord pas François ?
Il ne mord pas, non, non.
La SPA, là, est très très présente, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale. Un de ses combats a été contre la vivisection, contre une certaine cruauté à ses yeux, du comportement des médecins, parfois inutilement sadiques, dit la SPA.
Le premier animal pour lequel la SPA milite, et d'ailleurs pour lequel la SPA se crée, c'est d'abord la protection du cheval. Le cheval est l'animal qui est l'objet de toutes les attentions au milieu du 19e siècle.
Ça a été encore le cas pendant la Première Guerre mondiale, où on a créé la Croix Bleue, qui était vouée spécialement à soigner les chevaux innombrables qui ont été blessés.
Et avec la disparition progressive des chevaux de trait dans les villes, à partir du début du XXe siècle et de l'émergence de l'automobile et de l'électrification, et parallèlement de l'essor des chiens de compagnie, la SPA va au contraire se concentrer sur le sort des chiens. Et si, comme vous le dites, elle s'attache à partir de la première moitié du XXe siècle à la lutte contre la vivisection, c'est qu'elle a en fait un petit peu débordé par des sociétés beaucoup plus extrémistes qu'elle, qui se créent dans les années 1880 et qui reprochent en fait à la SPA son conservatisme et le fait qu'elle est dans une perspective trop humanitaire, pas assez attachée au sort des chiens pour eux-mêmes. Et c'est l'émergence d'un mouvement animaliste, d'un peu plus extrémiste, qui va pousser en partie la SPA à s'intéresser aux actes de cruauté commis par les chiens. Et puis, une autre explication également sociologique, c'est que la SPA ne cesse de se féminiser durant la première moitié du XXe siècle. C'est d'ailleurs une femme qui va la diriger dans l'entre-deux-guerres, Camille Dugaste. Et cette féminisation va évidemment accroître l'intérêt que la SPA porte aux chiens. Et on le voit dans l'archive, ici la SPA gère un refuge et il y a une ambivalence entre refuge et fourrière. Alors, pour être très clair, la distinction entre un refuge et une fourrière, c'est que dans le refuge, les chiens ne sont pas destinés à être éliminés lorsqu'ils ne trouvent pas de maître ou de nouveau maître.
Fourrière, on pense surtout maintenant aux automobiles, mais en fait, c'était pour les chiens, que les animaux, que la fourrière a été créée.
Alors, la fourrière aujourd'hui est utilisée pour les automobiles, mais elle était, notamment durant l'Ancien Régime, destinée à recueillir les chevaux, justement, des voitures abandonnées. Donc il y a un lien entre la vieille fourrière de l'Ancien Régime et la fourrière aujourd'hui de l'automobile.
Toujours cette ambivalence entre l'attachement aux animaux et l'inquiétude de débordement possible. J'ai observé que certains historiens, notamment Maurice Agulon, grand historien de l'émergence de la République, voit la zoophilie comme une valeur républicaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Damien Baldin ?
Il dit précisément que la zoophilie est une alliée un petit peu surprenante dans la lutte contre le cléricalisme. Et effectivement, la zoophilie, alors entendons-nous bien sur le terme de zoophilie au XIXe siècle, qui désigne les sentiments pour les animaux et l'amour des animaux, sans la connotation psychiatrique du mot. Et cette zoophilie, elle est au cœur du catéchisme républicain de la seconde moitié du XIXe siècle. On oublie notamment un peu trop que dans les cours de morale à l'école, eh bien la protection des animaux était au cœur des cours, au cœur des sentences à apprendre, et chaque école d'ailleurs devait afficher la loi Gramont pour rappeler aux enfants l'importance et l'attention que l'on devait accorder aux animaux.
Ce bonapartiste devient une figure majeure, je parle de Gramont, de la Vulgate républicaine.
Il est paradoxalement, effectivement, devenu un vecteur de l'idéologie républicaine par le vote de cette loi. Et Georges Clemenceau également fait le lien dans ses ouvrages entre l'amour des bêtes et l'idéologie républicaine, et tout cela sur un fond de panthéisme républicain, où cette idée que les hommes et les animaux vivent justement dans le même monde et où seuls comptent les relations entre les hommes et les animaux sans une présence divine et métaphysique au-delà d'eux.
D'ailleurs, on voit passer beaucoup de chiens dans les nouvelles rurales de Clemenceau à travers champs. Et il y a un film remarquable de Clemenceau dans sa retraite à Belle-les-Bas en 1926 ou 27, et où on voit un petit chien qui était son animal favori et qui aboie d'ailleurs contre les visiteurs.
Nous avons parlé de Clemenceau, mais nous pourrions aussi parler surtout de Jules Michelet, qui est un des grands-pères aussi de ce catéchisme républicain, mais aussi de l'attention portée aux animaux, notamment dans son ouvrage Du Peuple. Il rappelle la solidarité qui existe avec les animaux, avec ce qu'il désigne comme des frères inférieure. Et c'est aussi l'un des autres aspects politiques de la protection des animaux. Quand vous regardez, notamment à l'Assemblée nationale, les parlementaires qui s'intéressent à la question de la protection des animaux, ce sont aussi ceux qui s'intéressent au sort des femmes et au sort des enfants. Et il existe d'ailleurs une pensée, notamment à l'extrême gauche, de la nécessité de mieux protéger les animaux. Marx voyait lui-même le phénomène de l'animal de compagnie comme un phénomène bourgeois, mais dans d'autres traditions socialistes et dans la réalité aussi du phénomène, il y a au contraire une volonté de valoriser ces animaux-là parce qu'ils sont solidaires du prolétariat et que eux aussi, à travers la domestication et le dressage, subissent une forme d'oppression et de domination sociale.
C'est de cela qu'on trouve l'écho dans la chanson que je vais vous faire entendre, qui s'appelle « Mon vieux pâteau », une chanson de Valsien et Le Pelletier, qui est interprétée par Berthe Silva en 1934, 10 ans avant « Bonjour mon chien » de Damia, qui ouvrait notre émission consacrée aux relations entre le chien et l'homme durant les deux derniers siècles.
Rouillé, perclus, courbé sur son bâton de chêne, quand Buteau le braconnier dut renoncer à l'affût. Bien qu'on ne l'aimât guère vu son âge et sa gêne, au bureau de bienfaisance tout de même on le secourut. Au cabaret jamais on ne le voyait boire, il passait fier avec son chien causant quelquefois, pour dire que l'assistance étant obligatoire, c'est sans honte qu'il touchait son secours au bout de chaque mois. Puis il sifflait son chien, allons mon vieux pâteau, et tous deux s'en allaient, le vieux parlant tout haut. Mon vieux pâteau, toi qui es qu'une bête, t'es bien meilleur que certaines gens. T'as pas de soude, malice en tête, quand tu veux mordre, on voit tes dents. Tandis que les hommes, bêtes à deux pattes, sous des sourires cachant leur croc, à l'instant même où ça vous flatte, ça vous mangerait cœur et boyau. Personne, nous deux pâteaux, n'a pu nous humilier. Moi, je n'ai jamais eu de maître, et toi, t'as pas de collier. Un jour, comme il sortait du bureau de bienfaisance, il salua monsieur le maire qui dit « Bonjour Buteau ». « Tiens, c'est à toi, chien-là, oui, dit le vieux sans méfiance. Une brave bête presque aussi vieille que moi, n'est-ce pas, Pato ?»« Je comprends, répondit le maire, c'est un ancien complice. On s'aime pardi, seulement Buteau, moi je te préviens. Entre tes secours et ton cabot, faut que tu choisisses. L'argent des indigents n'est pas fait pour les chiens. » Et comme le vieux ne voulait en faire qu'à sa tête, on résolut de comprendre mieux que lui ses intérêts. Un soir, dont lâchement, on tira sur la bête, qui toute sanglante revint s'étendre auprès des chenets. Alors le vieux Buteau saisit sa cartouchière, il arma son fusil en grondant assassin. Mais Pâteau fit entendre une plainte légère, et le vieux en pleurant se pencha sur son chien. Et comme la bête semblait lui dire « Achève-moi », le bonhomme à genoux fit un signe de croix. Mon vieux Pâteau, nous sommes trop bêtes pour comprendre quelque chose à la loi. Finissons-en, la charge est prête, un coup pour toi, un coup pour moi. Pâteau, on va partir ensemble au pays d'où personne ne revient. Mon Dieu, tout de même j'en tremble, pardonne-moi Pâteau, tiens-toi bien. Et c'est comme ça que l'on vit, doucement dans les cieux, monter l'âme d'un chien avec l'âme d'un gueux.
Voilà qui tire les larmes. Damien Baldin est dans la ligne d'une littérature un peu larmoyante, mais néanmoins qui touche juste.
Oui, qui touche un phénomène qui est celui du chien du vagabond, du chien du marginal, de ce chien qui est craint aussi.
Parce ça existe toujours.
Et qui existe toujours. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui vient de sortir aux éditions La Découverte de Christophe Blanchard.
Sur les SDF et les chiens.
Oui, sur les chiens de rue et sur l'importance aujourd'hui que les chiens ont pour des personnes qui vivent dans la marginalité et notamment dans la rue. On trouve des traces de cette stigmatisation, notamment dès le 19e siècle. siècle, lorsque justement les autorités politiques essayent de nettoyer la ville de ces chiens vagabonds, de ces chiens errants, qui provoquent la peur, qui provoquent l'effroi de la population, parce que justement ils ne sont pas en laisse, ils ne sont pas identifiés par une médaille.
Et personne n'est là pour payer la taxe sur les chiens, dont on a parfois oublié qu'elle a duré jusque dans les années 1970.
Et oui, c'est une taxe canine qui est votée en 1855 et qui est clairement une loi de stigmatisation sociale. Ceux qui la votent souhaitent justement voir éliminer des pathos, tous ces chiens de vagabonds ou de ceux qui appartiennent à ce qu'on désigne alors comme les classes dangereuses, ces chiens du macadam. Et cette taxe est faite justement pour mieux ordonner la présence des chiens, lutter contre une présence indisciplinée, lutter contre l'errance, permettre ce que l'on voit aujourd'hui dans les villes, à savoir que à Paris, par exemple, lorsque vous promenez dans la rue, difficile de voir un animal. Les seuls animaux que nous voyons aujourd'hui sont des chiens.
En laisse.
Et ils sont toujours en laisse, extrêmement encadrés, avec une médaille, tatouée, donc qui sont extrêmement identifiés. Et c'est justement ce que nous voyons aujourd'hui, et le résultat aussi d'une politique de contrôle et d'ordonnancement du monde animal et notamment du monde canin dans les villes. On va dire une mise en pratique de ce que Michel Foucault appellerait une biopolitique, à savoir un contrôle du corps des animaux.
Avec une élimination systématique d'un grand nombre de chiens. Vous avez découvert, en fouillant dans les archives de la préfecture de police notamment, l'existence non seulement de la fourrière, mais sur la longue durée, de systèmes de massacres des chiens qui sont impressionnants. Nous allons terminer là-dessus cette conversation, quitte à la faire in fine un peu morose.
Oui, les fourrières se structurent de plus en plus au 19e siècle pour que la lutte contre les chiens errants devienne de plus en plus efficace. Et lorsqu'un chien est attrapé par la police, il est donc mis en fourrière, mais pour un délai extrêmement court, qui peut varier entre 3 et 6 jours. Si le chien a la chance de pouvoir être identifié, s'il a la chance de pouvoir retrouver un maître, il pourra s'en sortir. Mais le destin de la grande majorité des chiens est justement la mort.
Par pendaison ?
Alors, dans la fourrière parisienne, cette mort se fait d'abord par pendaison. Durant tout le 19e siècle, et puis sans doute un coup dans la nuque pour abréger la souffrance des chiens. Et c'est justement cette souffrance qui devient de plus en plus intolérable, notamment aux sociétés de protection, qui explique que cette mise à mort va changer à partir des années 1880, notamment sur le modèle de Londres. Et c'est là que les sociétés de protection poussent la police de Paris à adopter des chambres à gaz pour éliminer les chiens des fourrières. C'est-à-dire qu'on a un petit peu le même phénomène que pour la guillotine. Les chambres à gaz sont alors présentées comme une mise à mort humanitaire qui abrège la souffrance des chiens et qui explique que, à partir des années 1880, la fin des années 1880, dans la fourrière de Paris, fonctionnaient tous les jours des chambres à gaz qui éliminaient chaque mois des milliers et des milliers de chiens. Et une fois encore, cette mise à mort était présentée comme un progrès.
Et ça a duré jusqu'à quand ?
Alors écoutez, j'ai du mal à identifier la fin de l'usage des chambres à gaz, mais cela, à mon avis, continue d'exister après la Seconde Guerre mondiale. Au Mexique, je sais par exemple qu'il y a encore des mises à mort par chambres à gaz, de chiens errants notamment.
Merci beaucoup, Damien Baldin. Votre livre que j'ai cité en commençant s'appelle « Histoire des animaux domestiques, 19e, 20e siècle ». Il est paru récemment aux éditions du Seuil. Nous avons également évoqué chemin faisant les travaux d'Éric Baratet, et notamment il faut citer le dernier d'entre eux, « Bêtes des tranchées, des vécus oubliés ». C'est une étude consacrée à la Grande Guerre. Le centenaire, évidemment, se prêtait à ce genre de livre, édité au CNRS Éditions en 2013. Je voudrais également rendre hommage à un très intéressant dictionnaire des chiens illustres. Rien que ça. Paru chez Honoré Champion en 2012, l'auteur en est André de Montois. On voit beaucoup de citations de personnages célèbres. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références, vous le savez, des documents sonores que nous avons utilisés, archives et chansons. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, vous êtes comme moi, Damien Baldin, attentif à l'actualité. Nous parlerons de Hong Kong, la rebelle, dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois, qui sont consacrés précisément aux rebelles. Et mon invité sera le grand sinologue Jean-Luc Domenac. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée
avec l'aide précieuse de Jeanne Guéroux et de Nathalie Lempereur, et réalisé par Sylvain Richard cette semaine, avec Tristan Gratalon à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archivinas, Sandra Escamez. Et dans quelques instants, le relais va être passé à Dominique Rousset pour l'économie en question avec ses invités.